Merci beaucoup Nicolas pour ces paroles qui nous encouragent justement. Et je vous invite à la prière pour poursuivre notre écoute, notre désir d'être à l'écoute et de remettre ce temps encore entre les mains de Dieu. Merci Père parce que effectivement tu ne nous laisses pas seuls. Tu nous appelles à nous encourager et tu nous encourages notamment et surtout par ta révélation. Merci pour ta parole qui nous éclaire, merci pour ton esprit qui nous aide à la comprendre et nous voulons continuer d'être à ton écoute à travers la lecture de ta parole. Nous voulons être à l'écoute, non seulement être à l'écoute, mais aussi nous laisser transformer chaque jour par toi. Que ton Église puisse avancer avec ce lien dont on a parlé, ce lien d'amour, cet amour qui vient de toi et qui nous unit. Au nom de Jésus, amen. Alors que Saul de Tarse était sur le chemin de Damas pour demander des mandats d'arrêt contre des chrétiens, Jésus lui apparut. Saul de Tarse était un fervent serveur du judaïsme. Il faisait partie du groupe des pharisiens, un parti religieux très ferme vis-à-vis de la loi juive. Il était même membre du Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal religieux. Saul allait chercher des mandats d'arrêt contre les chrétiens pour les faire emprisonner et les faire mourir. Les disciples de Jésus étaient perçus comme une menace pour le judaïsme. On pensait qu'ils faisaient du tort, par exemple à la religion juive, aux coutumes juives, aux croyances et aux autorités religieuses. Ils étaient perçus comme une menace. Et donc Saul persécutait les chrétiens parce qu'il était convaincu de rendre service à Dieu. Tous ceux qui n'adhéraient pas à l'enseignement des pharisiens étaient considérés comme des pécheurs, en quelque sorte, des opposants à Dieu. Mais voilà que Saul rencontre Jésus et il voit sa vie totalement transformée. Je vous invite à lire le récit de ce bouleversement dans le livre des Actes, au chapitre 9, les versets 1 à 20. Acte 9, versets 1 à 20. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias !» Il répondit « Me voici, Seigneur !» Le Seigneur lui dit alors « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et, dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prie et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit : « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein de pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux Juifs, aux non-Juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Ce récit nous montre bien à quel point Saul était déterminé pour éradiquer le christianisme. Il s'apprêtait à réduire au silence les disciples du Christ. Saul était dangereux. Versets 1 et 2. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Et se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Damas était une ville qui comptait un grand nombre de disciples de Jésus. Saul voulait les arrêter pour les faire comparaître devant le tribunal juif de Jérusalem. Ce tribunal avait le pouvoir de condamner à mort les chrétiens. Saul était donc sur la route. Il se dirigeait à Damas pour faire du mal aux chrétiens. Le texte précise qu'il était sur le point d'entrer dans la ville quand une lumière l'aveugla. Il tomba par terre et une voix lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Et nous pouvons lire au verset 8 « Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. » On le prit par la main pour le conduire à Damas. Ce verset contient une parole très intéressante, verset 8. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. Il avait les yeux ouverts, mais ne voyait rien. La splendeur de Jésus l'avait rendu aveugle. Pourquoi Jésus lui a-t-il ôté la vue ? Nous savons que cela ne durera pas longtemps, 3 jours. Mais je me suis demandé pourquoi Jésus l'a-t-il rendu aveugle pendant ces trois jours. Il me semble que la tournure de la phrase au verset 8 nous invite à y prêter une attention particulière. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. Saul avait beau ouvrir les yeux, il n'arrivait pas à voir. Il y a peut-être une symbolique à comprendre. Alors bien sûr, on dit qu'il a été aveuglé pendant 3 jours pour marquer le coup. Il a bien eu une révélation, il a bien vu Jésus, ça l'a aveuglé. Il s'est passé quelque chose dans la vie de Paul. Et donc cet aveuglement a marqué cette transformation qui commence chez Paul, qui s'appelait Saul à ce moment-là. Mais il me semble que cette tournure de phrase, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien, eh bien ça nous incite aussi à y voir une symbolique à comprendre. L'être humain a beau faire des efforts pour connaître le divin, aujourd'hui les gens parlent d'une énergie, d'un dieu, d'un divin, d'une force supérieure. L'être humain a beau faire des efforts pour connaître le divin, il n'y parviendra pas seul, par ses propres moyens. Pour connaître Dieu, il faut entrer dans une attitude d'humilité et laisser le Seigneur nous montrer qui il est. Pendant ces 3 jours d'aveuglement, Saul va jeûner, il va prier, le texte nous le dit, et il va comprendre qui est Jésus. C'est pendant son aveuglement que Saul va saisir que Jésus est le Fils de Dieu. Finalement, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. Mais en ne voyant rien, c'est là qu'il verra clair sur la personne de Jésus. Au XVIIIe siècle, un homme du nom de John Newton s'était lancé dans le commerce d'esclaves. Avec son navire, il partait en Afrique pour déraciner les populations de leurs terres et les amener en Angleterre afin de les vendre comme esclaves. Un jour, alors qu'il se trouvait sur son bateau au milieu de l'océan, une tempête éclata. John Newton était sur le point de mourir. Il fit alors une prière pour demander l'aide de Dieu. Suite à cette prière, il fut sauvé de la tempête. Et un an plus tard, il se convertit au christianisme. Quand il découvrit la grâce de Dieu, il arrêta son commerce d'esclaves et commença même à militer en faveur de l'abolition de l'esclavage. Cet homme est même devenu pasteur à la fin de sa vie et il est devenu aveugle. John Newton est l'un des auteurs du célèbre chant « Amazing Grace ». Et voici les premières paroles de ce chant, d'abord en anglais, puis la traduction. Alors, excusez mon anglais, ma prononciation. « Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. » Grâce étonnante, au son de voix si doux, qui sauva le misérable que j'étais. J'étais perdu, mais je suis retrouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. Ce pasteur était probablement aveugle lorsqu'il a écrit ces paroles, et j'aime à penser qu'il était aveugle lorsqu'il écrit ces paroles. J'étais aveugle, maintenant je vois. Ce qu'il veut dire, c'est lorsqu'il voyait avec ses propres yeux, en réalité, il était aveugle sur la personne de Dieu. Et maintenant qu'il est aveugle, il affirme qu'il voit, dans le sens où il voit clair à propos de Dieu. Alors revenons à Saul. Il est resté aveugle pendant 3 jours. Au bout du 3e jour, Dieu lui envoie un disciple nommé Ananias qui prie pour lui. Et suite à cette prière, il retrouve la vue. Il reçoit le Saint-Esprit et décide de se faire baptiser. Nous avons là trois éléments qui marquent le changement de Saul. Premièrement, il retrouve la vue, maintenant il voit clair. Deuxièmement, il reçoit le Saint-Esprit. Ce n'est plus lui qui est le maître de sa vie, mais c'est désormais Dieu à travers l'Esprit. Et troisièmement, il se fait baptiser. Le baptême est un signe que Jésus a institué pour montrer devant témoins que l'on a changé de camp. Il était contre Jésus, maintenant il est disciple de Jésus. Le baptême montre le changement de camp. Saul est donc transformé, et cette transformation ne vient pas de lui, elle vient de Dieu. Celui qui cherche Dieu ne pourra pas le trouver par ses propres moyens, par les moyens humains uniquement. C'est Dieu qui se révèle à nous. De nos jours, beaucoup de gens se font leur propre idée de Dieu. Si l'on interroge nos contemporains sur leurs croyances, je trouve que l'athéisme est de moins en moins présent, mais beaucoup parleront d'une divinité, d'une force, d'un Dieu ou d'un être supérieur qui correspond tout à fait à ce qu'ils imaginent et surtout à ce qui les arrange. Dieu serait finalement le fruit de notre conception et chacun pourrait concevoir Dieu comme il le veut. Par exemple, Dieu serait tellement tolérant et laxiste que l'on peut vivre comme on veut, sans tenir compte de sa révélation. Ou alors, Dieu serait impuissant. Dieu serait même mauvais, d'où les souffrances sur terre. Dans ce cas-là, mieux vaut ne pas croire en lui. Mais les personnes qui tiennent ce genre de discours voient-elles clair à propos de Dieu ? Selon la Bible, et paradoxalement, c'est en reconnaissant notre aveuglement que nous pourrons voir clair. C'est quand nous essayons de ne plus voir par nos propres efforts que Dieu pourra vraiment se montrer à nous. Qui d'autre que Dieu peut nous dire comment il est ? Qui d'autre que lui peut nous dire qui il est ? Saul est donc converti. Il voit clair sur Dieu. Mais ce n'est que le début de sa nouvelle vie. Si Dieu nous appelle, ce n'est pas seulement pour nous sauver. C'est pour que nous puissions accomplir une mission. Et cette mission, elle est propre à chacun selon ce que Dieu nous donne d'accomplir dans notre vie. Et voici les projets que le Seigneur avait pour Saul. Verset 15, « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Le Christ a choisi Saul dans le but d'annoncer le salut en Jésus. Notons bien que sa mission, il ne l'accomplira pas en solitaire, mais en partenariat avec la communauté des disciples, c'est-à-dire l'Église. Ce récit contient des enseignements très forts sur l'importance de l'Église aux yeux de Dieu. La première parole que Jésus adresse à Saul, c'est la question suivante. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Qui est-ce que Saul persécutait ? L'Église. Saul persécutait l'Église, c'est-à-dire la communauté des disciples de Jésus. Faire du mal à l'Église, c'est pareil que persécuter Jésus. Faire du mal à l'Église, c'est pareil que faire du mal à Jésus. Et vice-versa, si l'on aime réellement Jésus, on va prendre soin de l'Église. Peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce que l'Église alors ? Un peu comme lorsque Jésus dit « aime ton prochain », on lui demande « qui est mon prochain ?»« Aime l'Église, qui est l'Église ?» Est-ce que c'est l'Église universelle ? Est-ce que c'est l'Église locale ? Etc. On pourrait débattre pendant longtemps qu'est-ce que c'est l'Église, mais il faut réfléchir en termes de personnes et non pas en théorie. L'Église, c'est l'ensemble des disciples de Jésus. C'est les disciples de Jésus que Saul persécutait. Prendre soin de l'Église, c'est prendre soin des personnes qui composent l'Église. Et ces personnes, on les trouve notamment dans les églises locales. D'autres indices dans le texte nous montrent à quel point la communauté est importante pour Dieu. Par exemple, pourquoi Dieu a-t-il fait appel à Ananias ? Dieu s'est bien adressé directement à Saul. Pourquoi a-t-il ensuite fait appel à un disciple pour lui transmettre un message et pour lui rendre la vue ? Il aurait très bien pu le faire sans passer par Ananias, comme au début. Mais justement, le moyen privilégié que Dieu utilise pour se révéler, ce n'est pas par des apparitions, c'est par sa parole, et sa parole proclamée par ses disciples. D'ailleurs, c'est la mission que Dieu va donner à Saul. Il va être appelé à prêcher le Christ, mort et ressuscité, pour nous sauver des péchés. Jésus est bien capable de se révéler directement, mais comme moyen privilégié, il a choisi ses disciples qui portent et qui proclament la parole. Enfin, un dernier indice qui nous montre l'importance de l'Église se trouve au verset 19. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est bien le Fils de Dieu. Saul, qui recevra plus tard le nom de Paul, l'apôtre Paul, n'exerce pas son ministère en solitaire. Il le fait en collaboration avec la communauté des disciples de Damas. Dans la Bible, on ne voit jamais un disciple vivre sa foi en dehors de la communauté chrétienne. Selon les textes du Nouveau Testament, un disciple est un chrétien qui s'engage avec l'Église pour annoncer le salut en Jésus-Christ. Si Dieu a choisi de procéder ainsi, c'est parce que l'un des aspects de notre témoignage doit aussi se trouver dans l'unité de la famille de Dieu. Comment témoigner de l'unité en Jésus si chacun vit sa foi de manière individualiste? Dieu a choisi l'Église comme lieu d'encouragement, comme Nicolas nous l'a dit, comme lieu d'édification, comme lieu où nous pouvons apprendre à aimer, à nous aimer, à témoigner, à recevoir la parole et à la proclamer. Alors pour conclure, prenons simplement une vue d'ensemble sur le récit. Saul était en chemin pour Damas, pour entrer dans les synagogues et arrêter les disciples. Finalement, on voit qu'il arrive à Damas. Il entre effectivement dans les synagogues, comme il l'avait projeté. Mais son projet a changé. Il entre dans les synagogues, non plus pour éliminer les disciples, mais pour faire d'autres disciples. Dieu nous appelle à lui pour nous sauver et pour faire de nous des témoins de la bonne nouvelle du salut en Jésus. Que cette vocation ne soit pas oubliée dans nos églises et que Dieu nous aide chacun à vivre la vie de disciple à laquelle il nous appelle. Amen. Je vous invite à un temps de